Voilà, donc la parole est à nous.
Il est bien, il est...
Oui, j'ai distribué la parole, il paraît. Oui.
Il y a une dame là.
Il y a une dame, pardon, que je ne voyais pas.
Ah non, mais oui. C'était juste parce que je tape loco motivé, c'est bon, je trouve.
Vous tapez LECO espace motivé, vous trouverez le site internet. Et...
Ah oui,
alors,
oui.
Le site internet n'est pas très très à jour. Si vous cliquez sur le gros bouton vert, vous verrez tous les producteurs.
Et... Oui, voilà.
On est toujours, il y a toujours le petit film aussi qui présente, on peut avoir accès sur internet au petit, il y avait un petit film qui présentait les locomotivés, pas sur le site, mais il y a un film qu'on a vu aussi.
Il y a un film qui est sorti, aussi,
oui.
qui présente pas forcément l'association, mais qui s'appelle Des locos très motivés.
Voilà.
Et c'est le portrait de 5 des producteurs. Mmh. Et parmi ces 5 producteurs, vous avez... différents portraits, différentes façons de produire en fait. Le film, en fait, certains d'entre vous l'ont vu peut-être. Voilà, vous verrez des locaux très motivés, mais ça parle pas beaucoup de l'association. Ce soir, vous avez vu plutôt le fonctionnement, et ce qui est bien dans le film Des locaux très motivés, c'est qu'on voit 5 démarches de producteurs en Aveyron. Et Lilian aussi et Benoît ont été filmés, et si vous allez dans les bonus. Je crois qu'il y a un bonus. Ouais, Benoît. Voilà, ouais, mais bon, ça. Bon, il n'est pas très. Un peu timide, mais.
Bon, par contre, si vous tapez locomotivé sans le tiret, vous tombez sur toutes les locomotives de la SNCF. Alors, soit vous mettez un tiret, soit un espace, mais.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur les différentes les approches différentes entre les locomotivés, le panier paysan, par exemple? S'il y a des différences, peut-être qu'il y en a aucune, je ne sais pas.
Disons que on peut dire que les deux groupes sont c'est très similaire au niveau des personnes qui sont dans les deux entités. Le panier paysan, c'est des agriculteurs qui se sont choisis aussi un peu sur le même principe que ce qu'on fait aux locomotivés, avec des gens qui visitent, qui disent c'est bon, c'est pas bon. Avec un cahier des charges dans les deux côtés, c'est pas d'OGM. Un cahier des charges qui est à minima, mais qui est plutôt sur la confiance et la visite qu'on fait chez les gens. Je dirais les locomotivés, c'est les consommateurs qui, bon, on vous a expliqué là, qui viennent par internet aux paysans. Et le PVC, en fait, c'est un magasin qui regroupe 18 producteurs. Et donc ces 18 producteurs tiennent à tour de rôle le magasin, voilà. Et c'est un statut spécifique qui est le statut des points de vente collectifs. Donc la seule façon de bénéficier de ce statut, c'est que ce soit l'agriculteur qui soit en direct, en prise avec le consommateur, c'est lui qui tient la caisse. Voilà. Et donc à chaque fois que vous allez au panier paysan, vous avez une personne, à chaque fois une personne différente. Après, chaque point de vente collectif a ses propres règles, mais c'est... En gros, voilà.
C'est le panier paysan de Nus.
Oui, oui, oui. Ah oui. Parce qu'après, si vous tapez panier paysan, là, c'est pas les locomotives que vous aurez, mais il y a plusieurs paniers paysans en France. Ouais.
Par contre, par rapport à ce que dit Benoît, en fait, chaque groupe a son histoire et qui est un peu différente. Et l'idée, c'est qu'à la place de tenir une caisse dans un magasin, locomotivé, les producteurs viennent livrer des produits, et la caisse, c'est internet, en fait. Le tiroir caisse. À la place d'avoir une caisse physique, c'est un site. Voilà. Donc c'est la même chose, mais c'est un autre moyen. Par contre, ce qui s'est passé au locomotivé, c'est que c'est une initiative au départ de producteurs, de citoyens, enfin de gens qui sont un peu mélangés en disant on crée. Donc les premières réflexions n'étaient pas du tout techniques. Si vous voulez deux agriculteurs qui discutent d'une technique agricole, ça peut très vite finir au conflit. Voilà, en fait, je veux dire, et au départ, nous, c'était juste se démerder pour arriver à se faire livrer des produits. Et c'était d'abord un problème logistique. Donc, en fait, les locomotivés, c'est une structure où même les producteurs, à un moment donné, on dit ça détend du fait qu'on décide, quand on décide en réunion, il n'y a pas que des producteurs, il n'y a pas que des consommateurs, il n'y a même pas de collège, on n'a pas créé de collège consommateur-producteur, il n'y a pas cette notion, on est ensemble, on essaie de faire équipe. Par contre, pour les grosses décisions, on a validé le fait qu'on ne pouvait décider que si dans la réunion, il y avait suffisamment de personnes qui n'avaient pas d'intérêt économique dans la structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si à une réunion, il n'y a que des producteurs, les grosses décisions ne peuvent pas être prises parce que tous ont un intérêt économique. Donc en fait, on a un groupe qui a choisi, et c'est les gens qui avaient un intérêt économique, hein, comme on en a parlé, qui ont choisi de dire on peut prendre des décisions que s'il y a au moins 5 personnes qui n'ont pas d'intérêt économique de la structure. Et ça permet de peut-être de détendre un peu l'atmosphère, quoi.
Ouais, mais du coup, on ne peut pas augmenter les prix, quoi. C'est
non. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que les plus grands défenseurs des producteurs dans les réunions, c'est pas forcément les producteurs eux-mêmes, c'est les consommateurs. Enfin, je sais pas, c'est, aux dernières réunions, ceux qui ont défendu les intérêts des producteurs, c'était plutôt des gens qui n'étaient pas producteurs.
On devient partie prenante.
Voilà. Et, mais surtout, ce qui est très dur à expliquer, c'est surtout qu'on on peut... Il n'y a pas cette notion de consommateur... Enfin, on essaie qu'il n'y ait pas cette notion de consommateur-producteur. Même si elle existe, parce qu'on n'a pas le même métier, mais... Enfin, demain, ça serait un échec si on avait un collège de consommateurs et producteurs. Parce qu'en fait, les producteurs, ça fait partie des plus gros consommateurs. Enfin, je veux dire, Lilian, enfin, je ne sais pas si tu consommes beaucoup, je n'ai pas regardé combien tu consommes. Mais voilà, il y a des producteurs. Je crois le plus gros consommateur en 2015 qui a consommé le plus de produits locomotiviers, c'est un producteur. Donc voilà, il n'y a pas de ligne frontière.
Oui. Comment ça marche pour les achats? Il y a un minimum d'achat, il y a un panier qui est le panier de l'enfant, ou alors...
Où il va le renvoyer?
Donc en fait, la question, c'était comment ça marche les achats? Est-ce qu'il y a un panier type? Est-ce qu'il y a un panier minimum? Donc en fait, les locomotivés, tu peux expliquer, Julie, comment ça marche?
Alors en fait, les commandes se font à partir du jeudi 16h jusqu'au lundi soir minuit. Et le panier livré le mercredi. Il n'y a pas d'engagement de montant. Enfin, il n'y a pas d'engagement tout court. Déjà, vous pouvez commander tous les mercredis. Vous pouvez commander tous les mercredis. Mercredi sur deux. Mais voilà, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de montant de commande minimum non plus. Donc on a des petits paniers. On a des paniers... qui font 3, 4 caisses noires, comme on voyait là sur l'ordinateur.
Donc ça marche vraiment comme si vous alliez à l'épicerie du coin quand vous voulez, à part que vous avez commandé par Internet. Donc il n'y a vraiment aucune forme d'obligation. On a une très très bonne surprise par contre en 2015, c'est que la plupart des points de vente collectifs, on s'était basé sur eux parce que c'est le modèle qui est le même pour nous, par contre, sur Internet. Et on s'est rendu compte que le panier moyen, on avait prévu un panier moyen par personne de 27 euros. C'est ce que font à peu près les points de vente collectifs. Et au locomotivé, c'est 40 euros. Au logo, pardon. Ça micro, là.
Ça passe comme ça passe dans le micro.
Voilà. Et c'est à peu près 40 euros. Donc, par contre, dans un point de vente collectif, c'est ouvert toute la semaine, et le même client vient peut-être deux fois dans la semaine. Et, donc on a une très bonne surprise, et le fait qu'on ait des gros paniers, c'est aussi bien d'un point de vue écologique, c'est que ça fait moins d'endroits à livrer, moins de logistique, quoi. Donc on a des clients très très motivés et très fidèles. En fait, ça c'est donc ça, on sait que c'est le trésor qu'on a réussi à construire en 4 ans. C'est des gens qui nous font confiance, donc sur la confiance, c'est ce qu'on s'est dit cette année, il ne faut pas grossir trop, mais il faut qu'on soit irréprochable sur l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la relation. Je voulais juste faire une remarque, efficace et conviviale, pourquoi on est efficace? C'est pour avoir plus de temps pour manger et boire.
Comment sont décidés les tarifs, par exemple?
Alors, comment sont décidés les tarifs?
Pour la concurrence ou l'autre, Jamaf
ou... T'as des producteurs. Déjà, les locomotivés n'ont pas leur mot à dire sur les prix. Le producteur, c'est le producteur qui fixe son prix. Voilà.
Il se base sur quoi?
Sur le marché. Alors, quand même, on essaie de faire le prix ensemble et d'en discuter. Il y a le goût de revient que le producteur connaît, combien j'ai besoin pour vivre. Mais il y a aussi le marché tel qu'il est. Si c'est beaucoup trop cher, ça doit s'expliquer. On a un producteur de porc qui a des tarifs hors du commun. mais une production hors du commun. Donc l'argent dit je ne veux pas payer, puis une fois qu'il l'a rencontré, en plus il est très très doué, vous le verrez dans le film des locaux très motivé, il est vraiment très très marrant. C'est un sacré glandeur en fait, parce que en fait, glandeur ça veut dire quoi? Ça veut dire amener ses cochons manger les glands. C'est un jeu de mots, mais c'est pas. Et donc je plaisante un peu, mais. Donc il a. Et en fait, quand les gens voient sa production une fois, ils comprennent, et qu'ils comprennent pourquoi un porc plein air coûte deux fois plus cher qu'un porc industriel, ben en fait ils achètent le produit. Donc en fait, nous on lui disait t'es trop cher, mais en fait une fois qu'on a expliqué, c'était pas trop cher pour les clients. Donc en fait, c'est le prix, on essaie quand même de faire un peu de conseil ensemble, de dire bon c'est trop. T'es un euro plus élevé que le prix du marché de Rodez, donne-nous des moyens de l'expliquer. Alors ces producteurs, ils sont un peu têtus parce que on leur dit souvent, mais expliquez-nous pourquoi c'est si bon. Et ils oublient de le dire. Lilian, voilà, des fois, il a une tombe un peu qui a changé un peu de couleur, on lui dit ça passera. Et bien en fait, c'est parce que c'est une autre saison, qu'il y a un autre type de bactéries, c'est pas grave. Et tout ce travail d'explication, en fait, c'est très important pour le consommateur, et c'est là qu'on fait du lien. Quoi, ouais. Mais souvent, les producteurs, ils sont, c'est les pires vendeurs de leurs produits, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, par contre, on les vend très bien, nous. Hein, voilà, ce soir, on a vu 2-3 personnes qui habitent à l'alcool, et à 10, si vous goûtez pas, il faut goûter le fromage de bain de Benoît. Quoi. Mais je ne dis pas, je fais pas de la pub, hein, c'est juste qu'ils vendent des pots de 500 grammes, on se plaint tous du fait que, des fois, on le mange en une seule fois, donc c'est dangereux, c'est un produit dangereux. Mais voilà. Mais franchement, goûter ce que fait Benoît, c'est il n'y a pas plus concret, quoi. Voilà, c'est goûter les produits de Benoît, il n'est pas loin.
Et
est-ce qu'il en a
emmené
ce soir?
Je voulais finir de répondre au monsieur sur la. Enfin, je vais vous donner ma politique de prix, parce qu'après chaque producteur a sa politique de prix.
Le micro sur la bouche.
Donc en fait, pour ma part, donc on vend à la ferme ici à peu près un tiers de notre production, ici à 1,5 km. Donc ça, c'est le prix, c'est le, on va dire le prix de base. Après, on a un prix un tout petit peu plus élevé, qui est le prix aux AMAP. Donc on fait partie de l'AMAP de Bozoul. Donc il y a Alain qui est là, qui l'a lancé, et Pascal, qui ont lancé cette AMAP, je ne sais pas en quelle année tu as lancé ça, là.
C'est Pascal, en 2012.
en 2012. Donc, et si vous voulez, le prix que nous, on a choisi de faire aux AMAP, au panier paysan et au locomotivé, c'est le même. Et ensuite, on a un prix, on va dire, départ ferme. Et donc là, quand on a des revendeurs, bon, nous, on n'en a quasiment pas. On a peut-être que 10% de notre production qui part avec des intermédiaires. Mais là, c'est le, si vous voulez, on vend le produit hors taxe pour l'intermédiaire. Et lui, là, il applique sa marge en fonction de ses charges. Donc après, on retrouve des produits qui sont plus chers, quoi, si vous voulez. Donc c'est un choix, si vous voulez, de mettre AMAP, locomotivé et panier paysan sur le même. Enfin, pour nous, on a fait comme ça. Parce que c'est du circuit court et que bon, c'est à peine plus élevé que ce qu'il y a à la ferme. Voilà.
Après, les locomotivés, pour payer le salaire, ils ont besoin d'un peu d'argent. Et les locomotivés, en fait, ça appartient à qui? C'est une association, ça appartient donc aux membres de l'association. Donc ça appartient autant aux bénévoles qu'aux producteurs. C'est ça qui est un peu différent, vous disiez, voilà, qui appartient en fait à tout le monde et à personne. C'est un peu compliqué. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, quand vous achetez un produit locomotivé, il y a 15% qui sert à payer le camion, qui sert à payer Julie, qui sert à payer tout ça. Donc c'est pas une commission, c'est des frais logistiques. Parce que c'est le producteur qui amène le produit chez vous, quoi. Et c'est Julie livre avec un producteur différent à chaque fois. Donc voilà, mais pour pouvoir payer tout sous cette organisation, il faut 15% à peu près. Et certaines PVC, en fait. Ce pourcentage, les bons PVC à l'environ, enfin les PVC tous les plus longtemps, ce pourcentage tombe à 10% à peu près, pour faire tourner la machine. Mais par contre, je pense, mais je peux me tromper, dans un PVC, l'agriculteur est obligé de tenir le magasin, et a priori, je pense que le lien prend un peu plus de temps que les locomotives. Donc à un moment donné, le temps qu'on passe en moins, bien, il se retrouve en argent ou vice-versa. Mais par contre, je ne sais pas, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui.
Il y a les locomotives, puis il y a le panier paysan, puis il y a aussi le marché
voilà. Voilà.
De Rodez, de Marseillac.
Voilà. Il n'y a pas de.
C'est, on peut aussi trouver des producteurs.
Voilà, et tu as raison de le souligner, il existe plein de circuits. Voilà. Et puis chacun, voilà, ce soir on est.
C'est du circuit court aussi.
Oui, oui, oui. Non mais tu as raison de le suivre, et puis moi je vais au marché, donc il n'y a pas de soucis.
Ma compagne va sur les marchés, alors je suis dans la merde. Donc, il va ici, non, mais, après, on parle d'un circuit particulier, mais tu as raison de le dire. En fait, il y a.
Mais
y a...
Le cochon au gland, il faut le trouver au marché.
Non, mais il peut y en avoir.
Ah, il vient
redescendre. Non, par contre, attention, il faut simplement.
Place du bon.
Il y a deux choses. J'ai lu une citation récemment qui s'appelle retourner les fusils. Retourner les fusils, ça veut dire simplement que les locomotivés peuvent être un peu contre le grand du marché. Le marché peut être un peu contre le grand du locomotivé. Mais en réalité, notre vrai souci, c'est pourquoi les grands distributeurs seraient plus efficaces que nous si nous nous bougeons. Donc en réalité, il faut des marchés, il faut des locomotivés, il faut des amas, tout ça. Mais par contre, faut pas se tromper. Des fois, on est plus jaloux entre nous que face à des personnes qui n'en ont rien à foutre de notre propre santé. Donc d'abord, regardons ceux qui nous manquent de respect parce qu'ils n'en ont rien à faire de notre santé. Et après, entre nous, essayons de perdre le moins de temps possible. Mais tu as raison de le souligner, les marchés, en fait, les marchés, c'est très bien. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de mixité sociale. Voilà, c'est un lieu fabuleux. Voilà, et c'est juste qu'il y a des gens qui ont un rythme de vie qui fait que c'est pas le marché. Mais par contre, le marché, ça marche, et voilà.
Est-ce que tu as parlé du coût énergétique d'un produit qui viendrait d'un circuit court par rapport à un pays qui viendrait de l'autre bout du monde ? On peut croire que ce qui vient de Chine, de Nouvelle-Zélande est moins cher et a un coût énergétique très fort, alors qu'en fait, un agneau, une poule, un œuf, un fromage blanc produit chez nous, rendu dans le frigidaire de quelqu'un, a peut-être un coût énergétique supérieur à un poulet, un fromage blanc qui viendrait de Nouvelle-Zélande.
Alors il y a un exemple en Aveyron, on a une grande filière qui est la filière brebis. J'ai entendu ça, alors il faudrait que je vérifie mes sources, mais je crois que certaines institutions millavoises, en fait, alors peut-être que j'étais plus au courant de ça, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des cantines de millions qui avaient mis dans leur cahier des charges le CO2, peu d'impact CO2 pour acheter de la viande de brebis, et ils pensaient que ça permettrait d'acheter de l'agneau aveyronnais. Et sur ce cahier des charges du CO2, c'est l'agneau néo-zélandais qui a gagné. Pourquoi l'agneau néo-zélandais a gagné ? Parce que l'agriculture néo-zélandaise n'a rien à voir. Les boutons, on les laisse en pleine nature, sur des grands espaces. Aucun intrant, il n'y a que le soleil et l'herbe. Sur 1000 agneaux, il y en a 300-400 qui meurent, voilà. Voir des agneaux aussi rachétiques pour un agriculteur aveyronnais, c'est juste pas supportable. Même psychologiquement, moi j'ai des amis qui ont été en Nouvelle-Zélande qui sont agriculteurs, ils disent « je ne pourrais pas laisser mon troupeau comme ça, c'est pas possible ». Donc c'est culturel aussi. Mais cet agneau qui n'a pas été sous une étable, qui n'a pas reçu d'aliments particuliers, où on n'a pas mis de l'engrais pour le nourrir, etc., eh bien, il coûte moins cher en énergie, même si on l'a déplacé à travers un paquebot, à travers tout le monde entier, qu'un agneau local. Donc ça nous prouve que si demain on devait jouer ensemble à... Et si on jouait à « il n'y a plus de pétrole », on a quand même pas mal de boulot à faire. Quoi. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quoi, en fait. Mais et les circuits courts, pour être clair, la qualité des camions de nos maraîchers... Alors je vais caricaturer exprès. La qualité des camions de nos maraîchers qui transportent des produits pas forcément très lourds sur de longues distances avec des camions pourris, l'empreinte écologique, à mon avis, n'est pas très très bonne. Donc en fait, il y a des études de l'ADEME qui montrent que les circuits courts, souvent, sont plus polluants que les circuits longs. Donc là, Et la seule manière de rattraper, c'est d'optimiser un peu, et c'est de faire des produits bio. Parce que quand vous faites du bio, vous consommez beaucoup moins d'énergie parce que vous consommez moins d'engrais, enfin, je ne suis pas un technicien. Mais... Donc ça nous met aussi un peu en face nos propres contradictions, c'est que les circuits courts, parfois, sont beaucoup moins, moins écologiques que les circuits longs. Par contre, il faut toujours poser ce qu'il y a de l'autre côté, c'est si ce circuit court fournit un aliment de très bonne qualité. J'ai entendu dire qu'une pêche, de la grande distribution, cueillie très longtemps avant, etc., avait 57 fois moins de nutriments qu'une pêche d'un arbre naturel que vous cueillez et que vous mangez. 57 fois moins. Donc il faut toujours mettre en face aussi le produit, comment il vous a nourri. Mais tout ça, c'est compliqué.
Et le périsse 57 fois plus vite
en plus, donc il faut...
c'est sûr.
Donc, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'alimentation, moi j'étais un blaireau, je savais pas ce que c'était l'alimentation, mais quand on s'intéresse, en fait, on voit très vite que tout est compliqué et que, voilà. C'est pas si simple.
Il y a un aspect social quand même qui est très important.
Et l'aspect social, bien entendu. L'effet secondaire qui est absolument.
Convertir en empreinte CO2, l'aspect social.
Voilà. Bien sûr, l'effet secondaire sur lequel on a beaucoup insisté, c'est que des gens qui se connaissent et qui s'organisent sur un territoire, demain, si on leur dit « si on jouait à plus de pétrole », ils sont beaucoup plus capables d'imaginer, parce qu'ils se connaissent déjà. Donc on appelle ça la résilience, et certains s'intéressent à la transition, c'est-à-dire comment on trouve en soi les ressources pour résister aux crises. Un territoire où les gens se connaissent est beaucoup plus résistant qu'un territoire où les gens ne se connaissent pas. Donc, parce qu'on est plus intelligent en étant différent. Donc, on est d'accord que l'effet secondaire de vouloir se nourrir par soi-même... Moi, il y avait 30 personnes que je ne connaissais pas il y a 4 ans. Parmi ces 30 personnes, il y a des gens, c'est des amis. Voilà, je ne pouvais pas imaginer. Moi, j'étais devant des ordinateurs toute la journée. Quoi, donc,
tout à fait. Pas.
Hein ?
Tout à fait.
Donc, je ne sais pas si ça répond à la question.
C'est une réflexion de consommateur qui va sur le marché deux fois par semaine, le mercredi, le samedi, on s'est quand même pas donné le marché.
Hein. Et le locomotivé non plus.
C'est pas donné. Mais c'est vrai qu'il y a de très bons produits. Actuellement, il y a une pub sur la radio. Le kilo de cuisse de poulet à moins de 2 euros. Je me permets deux réflexions. Qu'est-ce qu'ils ont bouffé? Et qu'est-ce que bouffe le producteur qui produit ces poulets-là? Et combien il gagne sur 2 kilos, sur 2 euros le kilo. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir pour le consommateur des produits qui ont du goût. Je vous ai parlé des fruits. Moi j'achète plus de fruits à supermarché parce que en 3 jours je les mets à la poubelle. Quand je les achète ailleurs en bio ou bien sur le marché, ça dure plus longtemps. Donc finalement je m'y retrouve. Je les paye plus cher, mais je les mange tous. Alors que si j'en mange que la moitié, mais que je paye le moitié prix, enfin, moitié prix, j'en mange à moitié, ça va aller pareil. Sauf que j'en mange moins. Mais le produit, c'est que le problème, c'est que vous avez comme client des militants qui donc voient cette différence entre la qualité et le prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi atteindre les non-militants qui, eux, sont intéressés surtout par leur portefeuille?
Alors oui, il y a deux choses. Il y a intéressé par le portefeuille ou simplement pas avoir eu la chance tout petit d'apprendre à cuisiner. Je donne un exemple. On avait travaillé sur l'idée de donner des produits locaux aux Restos du Cœur. En discutant avec les bénévoles des Restos du Cœur, ils nous ont dit clairement, on a la plupart des gens à qui on donne de la nourriture qui ne cuisineront pas ou qui ne savent pas cuisiner. Si on leur demande de cuisiner, ils le jetteront. Donc je parle de choses assez concrètes comme ça. Donc je pense que ce n'est pas comme problème de militantisme, mais un problème de culture culinaire acquise dans le temps. Dans nos consommateurs, je ne pense pas qu'il n'y a que des grands militants. Il y a des gens qui ont envie de faire vivre leur coin. Par contre, pour répondre vraiment à votre question, c'est en lien à une chose nouvelle. C'est qu'on a une mission, on s'est donné une mission publique et on est un peu aidé par l'intercommunalité pour aller dans des lieux comme les écoles, où un enfant qui s'amuse à faire pousser une plante et à la manger, il touche 3 générations, ses parents et ses grands-parents. Et parce qu'un jour il a compris que pour manger un poulet, il fallait d'abord le tuer, peut-être qu'il laissera moins de reste dans son assiette. C'est des choses aussi bêtes que ça. La nourriture, pour la plupart d'entre nous, c'est devenu conceptuel. Je veux dire, on mange de la viande, on n'imagine même pas qu'il a fallu tuer pour le faire. Donc je pense que le lien à l'agriculture est très important. Donc en fait, cette année, on n'en a pas parlé ce soir, parce que c'était pas... mais on a une mission de discuter de nourriture avec les gens, quoi. Et dans les écoles, notamment. En fait, tu peux en parler peut-être, Julie.
Dans les écoles, parce que voilà, c'est des choses qui relèvent finalement de l'éducation, voilà. Et c'est aussi l'histoire des cuisses de poulet, c'est comment on rééduque les gens, des gens qui ont été habitués à payer des prix qui sont finalement pas justes, ni pour le producteur, ni pour lui, voilà, donc c'est comment réapprendre, réapprendre à consommer juste. Et c'est, voilà, c'est justement en agissant dès le plus jeune âge, en fait, que les choses changeront. Et ça prend du temps, mais voilà, c'est nécessaire.
Dans l'offre des produits, comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre les légumes, par exemple, les produits carnés, les produits laitiers? Est-ce que vous avez une offre? Comment ça se passe?
Alors, les légumes, les maraîchers ont beaucoup travaillé pour améliorer l'offre en légumes. C'est vrai que maintenant, on arrive à avoir une offre plus conséquente qu'au départ, parce que ça a mis du temps aussi. Le nombre de paniers a augmenté, mais les légumes, il faut le temps aussi que les maraîchers le s'adaptent. Donc, on a des nouveaux maraîchers qui nous ont rejoints, voilà. Donc, après, les légumes, c'est bien amélioré.
Pour ceux qui connaissent un peu les magasins collectifs, tous les circuits courts, les maraîchers et le maraîchage, c'est le plus dur à gérer, parce que c'est la production la plus dure. C'est très dur pour eux de s'entendre, parce qu'ils prennent trop de risques à faire plus de production, à se partager. Donc, avoir un équilibre, comme on a question dans les légumes, c'est très complexe parce que c'est tellement dur le métier que se répartir de la tâche, c'est pas facile. Et on plaisante quand on discute du circuit court entre nous, mais je crois que le marché, le PVC de Villefranche, il dit qu'on est un peu les casques bleus des maraîchers. Quoi. Parce que c'est, voilà, c'est très dur d'équilibrer les productions. Et on n'est pas une terre de maraîchage non plus, en fait. Allez, les zooms, on est quand même à 800 mètres. Voilà. Pour l'équilibre des légumes, c'est très complexe.
Et après, est-ce que vous n'avez pas éventuellement trop de producteurs de, je sais pas, de fromage, par exemple, pas suffisamment de viande ou... Non, il y a un équilibre qui s'est...
Oui, ça s'équilibre. En viande, on a un producteur de chaque type de viande, agneau, porc, veau, volaille, canard. L'idée, c'est de travailler sur la régularité. Et le conditionnement au détail. En fait, c'est beaucoup de conditionnement poli et on s'aperçoit qu'en fait, on touche une clientèle qui n'a pas forcément un gros congélateur à la maison et qui a besoin de détail. Sur la viande de porc, ils vendent, les producteurs vendent au détail et ils livrent quasiment chaque semaine. Et c'est vrai que même en livrant très régulièrement, le détail fait que. Ils écoulent.
Est-ce que les producteurs s'engagent auprès des locaux motivés parce qu'il y a un engagement à fournir une quantité donnée?
Donc la question c'était, est-ce que les producteurs s'engagent à fournir une quantité donnée, etc.
Est-ce qu'il y a un engagement entre le producteur et les locaux motivés?
Il y a ce qu'on appelle un contrat de mandat, mais bon, je ne vais pas rentrer dans... Il y a une histoire qui fait l'engagement moral, mais non, il n'y a pas d'engagement. En fait, il y a par contre une sorte de progression collective. En fait, un certain producteur qui ne va pas être régulier sur un certain produit comme la viande, et ça pénalise tous les autres. Par exemple, au Locomotive, on n'a pas réussi à trouver un producteur membre de fruits, donc on a des dépôts vendeurs. Mais les fruits, il faut savoir que ça tire tout le monde vers le haut, parce que c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Donc on sait qu'aujourd'hui, si on plantait des pommiers, dans 5 ans, on aurait de quoi les vendre. Donc en fait, on est aussi un peu, on essaie d'être des veilleurs et de dire à des gens qui veulent s'installer, planter des pommiers parce qu'il y a du potentiel en pommes bio et qu'on ne veut pas de producteurs. À neuf ou à neuf. Nous, peu importe, on sait qu'il y a du potentiel. Donc à force de tester, on sait qu'aujourd'hui, on pourrait installer, que des gens pourraient s'installer sur des productions assez simples, finalement. Quand je dis simples, ce n'est pas qu'elles sont simples, elles sont compliquées, mais elles n'existent pas. Ces gros investissements qui font qu'aujourd'hui un jeune ne peut plus s'installer. Quoi. C'est, enfin, on va en parler peut-être un peu mieux, mais toi, c'est la partie qui te motive aussi.
Ben, en fait, la première fois qu'on a mis les pommes au bon de commande, ils nous en ont commandé une tonne déjà. Là, déjà, donc le jour où il y a un jeune qui peut planter des pommiers, il suffit qu'il lève le doigt, il dit moi je prends des pommiers, et puis voilà, on aura notre producteur. Donc le but de l'association et du partenariat qu'on essaie de développer avec la communauté de communes, c'est aussi de faire en sorte que des jeunes trouvent leur voie dans ces petits créneaux. dans la pomme de terre, dans la pomme, dans la... Bon, bien sûr, les pommes sur les réseaux, ça n'a pas marché, ou bien, mais les patates, ça va bien marcher. Il y a d'autres choses pour faire en sorte que les jeunes, aujourd'hui, s'installent. Et le but de cette association, c'est d'avoir des clients, quoi, pour que les jeunes n'aient pas à ramer pour trouver... trouver le client quand on commence à transformer. C'est ce qui nous, quand on a commencé à transformer, moi j'ai fait 20 pirailles, j'étais à Millau, et j'ai fait, c'était en francs, 30 euros au marché.
Pas gagné, quoi.
Ça a été un peu long. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même 180 personnes qui commandent. Donc pour le jeune, il vient, il met son numéro de commande, et de suite, il peut commencer à travailler.
Et M. Épineuse disait est-ce qu'il y a trop de produits ou pas assez, etc. M. Épineuse, c'est équilibre. Hein. C'est-à-dire que si on a 10 producteurs de fromage et que 10 producteurs viennent à Arvieux porter 500 grammes chacun de fromage, écologiquement, c'est à peu près absurde. Donc en fait, on a d'autres producteurs qui nous ont dit est-ce qu'on peut rentrer locomotivé. Je crois que Claire avait demandé, ou je ne sais plus, enfin, voilà, pour le pain. Ben, en fait, au bout d'un moment, on va avoir l'air d'être un groupe fermé, parce qu'on va dire, oh ben non, le producteur qui était là, entre guillemets, est peut-être prioritaire, et si on en rajoute 10, et bien, personne ne va équiper son compte. Par contre, l'année dernière, on a essayé de faire quelque chose, mais ça a fait un peu peur, c'est-à-dire que chaque producteur, son remplaçant, qui disent, moi je suis d'accord pour être remplacé quand je pars en vacances, ou au cas où j'ai un coup dur, etc. On n'y est pas encore. Moi, en tant que bénévole, ça me semble important, pas en tant que consommateur, mais c'était aussi de se dire qu'un groupe n'appartient à personne sur le long terme. C'était cette idée de... Mais à la fois, c'était trop compliqué parce que c'était pas... Voilà, ça pouvait déstabiliser les productions de certains. Mais il y a peut-être que vous pouvez témoigner de moi là-dessus. Moi, je ne sais pas, mais pour le temps, qu'est-ce que vous en pensez ?
Et par rapport au problème du remplacement, c'est vrai que c'est délicat aussi de demander à quelqu'un de venir faire 15 jours. Le producteur fasse le reste de l'année. Donc c'est par rapport aux équilibres, s'il y a des gens qui rentrent en plus, il faut que le partage se fasse à 100%, parce que sinon, il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est de mon avis là-dessus.
Et après, si on oublie le nombre de producteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, on rentre un peu dans la salle rose. On appelle ça cette salle rose. Donc voilà. Donc voilà, on arrête là. Donc c'était plutôt l'idée de dire. On a eu des questions sur est-ce qu'on des fois on s'en fait restreindre avec ces gens, ouais, on m'a refusé de le motiver, tout ça. Alors, des fois ce qu'on a répondu, mais nous on donne tous les outils, c'est au point de source, notre modèle, on peut dire c'est quoi créer-le ailleurs, quoi. Voilà, créer-le ailleurs et.
Est-ce que ça existe ailleurs en France, en Europe ou dans le monde?
Oui, alors c'est, en fait, la recette est à peu près unique, mais comme toutes les recettes de la cuisine, votre grand-mère, elle fait la mayonnaise pas comme notre grand-mère. Donc la recette est. Tout ce qu'on utilise, c'est utilisé par d'autres. La façon de faire, on vous a parlé de la gouvernance, tout ça, elle est presque unique sans doute. Mais je veux dire, voilà, il y en a plein d'autres qui utilisent le panier local en France. Voilà,
parce que le logiciel qui a été fait à Nantes, non ?
Oui.
Il doit servir à d'autres
personnes. Oui, il sert à peu près à. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une éthique de logiciel, qui connaît vraiment bien le métier de producteur. Et qui est très costaud au niveau informatique. Hein. Et oui, donc ça existe ailleurs. Donc oui, il y en a d'autres qui existent ailleurs, et voilà, ça peut être recréé. Mais encore une fois, en face, il y a d'autres systèmes, il y a les marchés, etc. Mais voilà, tous ces systèmes doivent se mettre en place. Ouais. Sur les marchés, j'avais juste une petite remarque. Je trouve que je connais des gens qui sont sur les marchés. Et il y a deux choses qui se mettent en place sur les marchés qui sont intéressantes. C'est la relation directe au consommateur. Quelqu'un qui vous fait confiance, il peut devenir un client à long terme. Et le producteur est super content de ça. Par contre, il se passe autre chose sur les marchés éclairs, tu le sais, c'est que le consommateur non averti papillonne. Va acheter des produits de merde, alors qu'à côté il y a un super producteur. Et donc sur le marché, et nous on locomotive, on essaie, mais je ne veux pas dire que tout le monde est au même niveau de qualité, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais sur le marché, il y a aussi des escrocs qui viennent, qui ressemblent à des petits producteurs. Et ça, je trouve que vos associations devraient aussi faire attention que ben, c'est votre gagne-pain qui en dépend, tu vois. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, un collectif de producteurs visibles,
Nous, on nous dit que vous êtes fort en communication, les locomotives. Alors, c'est parce que peut-être on a un certain qui savent ce métier et tout ça. Mais vous, les producteurs, sur les marchés, faire corps pour vous identifier mieux les gens qui bossent dans le coin et pas les autres, peut-être un petit boulot à faire.
Les producteurs, ils sont souvent ensemble, mais effectivement, la concurrence sur le marché, c'est difficile. Après, tu as des gens effectivement qui vendent, etc. Mais le consommateur, lui, là où il va voir la différence, c'est que les gens qui viennent à l'année, tout le temps, tous les samedis, de janvier à décembre, en principe, c'est quand même la référence. En général, les gens que tu parles, tu les vois deux fois, trois fois, et puis tu les revois.
Donc tu confirmes que c'est satisfaisant à long terme, c'est que les gens, ils arrivent à reconnaître la différence entre
bon et... Ils savent quand même faire la différence, parce que les gens qui vont sur le marché, c'est des gens qui sont habitués, ils vont tous les samedis ou tous les mercredis. Ils ont leur référence à eux. Hein. Après, c'est intéressant aussi sur le marché, les mélanges, tu vois, et qu'on puisse communiquer tous. Il y a des gens qui revendent des produits et qui sont, ils excellent là-dedans, qui vont valoriser justement le travail des producteurs.
Moi, ce que je trouve gênant, c'est quand on vend un produit local et que il ne l'est pas, tu vois, c'est ça qui est gênant. C'est quand on ment, en fait, c'est pas le problème d'être revendeur ou en direct, c'est le...
Après, il y a le bouche à oreille,
Tu vois des tomates à décembre, c'est pas un producteur.
Non, bien sûr, il y a le bouche à oreille.
Et tu as des gens qui demandent des tomates à décembre.
Local.
Une question.
Oui, pour les citoyens un peu avertis, il semble bien que le bio soit quand même un modèle idéal. Alors le bio avec ou sans label. Le bio, c'est mieux pour l'environnement. C'est mieux aussi, semble-t-il, pour la santé de tous, à la fois producteurs et consommateurs. C'est peut-être bon aussi pour le portefeuille du producteur. Alors je voudrais savoir si vous ressentez un courant aspirant du conventionnel vers le bio. En viticulture, par exemple, c'est un phénomène qui a démarré depuis 10-15 ans.
Je peux peut-être témoigner par rapport à notre situation personnelle, puisqu'on a repris une ferme, nous, hors cadre familial. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les parents agriculteurs. Moi, je suis du nord de la France. Ma conjointe, elle est de la Haute-Savoie. Donc on a trouvé une ferme ici, un peu par hasard, en 96. Et on a repris la ferme en conventionnel, c'est-à-dire qu'on vend avec de l'Holstein, dans du maïs en silage, de l'ensilage d'herbe pour le petit mois d'août là, qui est sec. Donc on a commencé en conventionnel strict. Et pour nous, la problématique du bio, ça n'a pas été, du jour au lendemain. On passe en bio parce que parce qu'il y a, à un moment donné, un porte-monnaie qui s'ouvre et qu'il y a des aides et tout ça. Tout ça, ça s'est fait très très progressivement avec des... Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut l'envisager si on veut essaimer. Parce que c'est un peu ça le but, c'est pas de dire aux gens du jour au lendemain, mais tu casses ton système et tu changes, tu passes en bio parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. Donc les choses sont pas aussi tranchées, je pense, surtout pour un producteur qui a, je vois encore aujourd'hui dans la culture, dans ce qu'on apprend à l'école et tout ça, on a encore beaucoup d'écoles qui, les cours sur la bio, c'est une infime partie du cursus. Donc on sort de l'école avec un savoir, avec des notions qui sont pas toujours adaptées à ces transitions. Et donc pour nous, ça s'est fait progressivement en rencontrant d'autres producteurs. Je prends l'exemple du panier paysan. Nous, on est rentré au panier paysan comme producteur. On était en conventionnel. Et donc dans les années qui ont suivi, à force de rencontrer d'autres personnes, parce que bon, c'est une chance dans des groupes comme les locomotivés ou les paniers paysans, c'est mélangé, si vous voulez, avec une charte, mais c'est mélangé. Donc ça donne une chance à celui qui rentre, qui est en conventionnel, de rencontrer d'autres personnes, de discuter de façon culturelle et de lever des verrous qui font que pour passer en bio, en fait, on a peur souvent. C'est ça, en fait. C'est parce qu'on n'a pas les outils, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas si on va y arriver financièrement, parce que, bon, mine de rien, c'est un peu l'objectif aussi, il faut arriver à vivre de tout ça. Et donc, les choses ne sont pas aussi, aussi tranchées. Donc, nous, on y est arrivé par des groupes comme le Panier Paysan. Bon, on est arrivé au locomotivé, on était en bio, mais ça s'est fait progressivement. Par exemple, nous, notre conversion des terres, on l'a faite en 2007. On a commencé à travailler sur l'homéopathie, sur les vaches en 2003. Donc on avait bossé déjà avant. Entre 2003 et 2007, on a commencé à voir si éventuellement du maïs, on arrivait à faire pousser du maïs en supprimant les engrais, en mettant que du fumier. Puis pour en finir, on a attaqué sur les vaches, on les a convertis en bio en 2010. Parce qu'en 2010, on a trouvé une laiterie qui a accepté de nous prendre le lait payé en bio. Parce qu'il y a des fois, c'est des choses comme ça. Si vous pouvez avoir l'envie de passer en bio, si derrière, vous n'avez pas la commercialisation... Aujourd'hui, on a un coût de production, nous, au niveau du lait. Sur la ferme, on est à 34 centimes du litre de lait de coût de production. En conventionnel, le lait aujourd'hui, il est payé entre 25 centimes et 30 centimes. Donc déjà aujourd'hui, bon, on est en bio, donc on a peut-être un répit. Bon, c'est peut-être notre situation personnelle qui fait qu'on a un coût de production comme ça, mais ça passerait pas en conventionnel. Donc s'il n'y a pas derrière le lait de trouver l'outil, bon, nous on livre à Biolay par exemple, qui vous permet de faire ce pas, tout ça, c'est une longue histoire. Moi je dirais on est sur un chemin en fait. Faut pas faire des transitions comme ça brutales. On est sur un chemin et on y va chacun. Le tout c'est de savoir où on va, quoi. C'est de prendre la bonne route.
Bien. Oui, c'est vrai que de toute façon, c'est compliqué de passer en bio. Est-ce que c'est vraiment bénéfique financièrement pour le producteur? Ça, c'est un peu en fonction des exploitations. Enfin, un peu, parce qu'il y a des exploitations qui sont meilleures que d'autres, où l'herbe elle pousse plus facilement, et sans engrais, quoi. Donc, après, c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes dans sa tête, quoi. Enfin, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi l'idée qu'on se fait, il y a des choses qu'on doit abandonner quand on est... donc tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut... Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a des bons produits et des mauvais produits, ou qu'il y a des bons producteurs et des mauvais producteurs. Il faut simplement que les gens évoluent, quoi. Moi, quand j'étais à Albi, on avait des cours d'agriculture biologique par une dame qui était à Nature et Progrès, et elle était la seule dans le lycée à faire ses cours pendant que les autres disaient qu'il fallait aller à l'inverse. Alors nous, là, on était la première année, on venait de la Roque et tout, on était. Alors on l'a un peu traité de folle pendant un an, et puis enfin, on était quand même assez polis, mais enfin, bon. Et puis après, l'année d'après, quand même, à force de nous montrer ces néo-ruraux là, autour de l'Avant, là, autour de. Et dans la Montagne Noire, là, qui faisaient aujourd'hui, qui sont les laiteries du Pic, là, et les laiteries de Carmaux, là, qui se sont bien développées, on a vu quand même qu'on pouvait faire quelque chose, peut-être. Et le prof de Phyto, là, qui disait la monoculture de maïs, c'est le top. Les courbes d'azote, ça, avec la production, ça se croise à tel niveau. Les potentiels de culture et tout ça. Les derniers jours, il dit comme ça, bon, je pars à la retraite en ayant l'impression de m'être trompé toute ma carrière.
Sinon, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on passe à la transformation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent, ça va de pair, on fait la conversion à la bio. Donc bien souvent, on essaie il y a pas mal de personnes qui font cette démarche-là, de transformer ces produits. À un moment donné, le lait que vous mettez à transformer, et le fromage que vous allez faire derrière, c'est le lait que vous allez obtenir, donc c'est ce que les vaches vont manger. Et à un moment donné, tout ça, il faut que ce soit en cohérence. Donc il y a beaucoup de fruitières, par exemple, je pense à la coopérative de l'Aïole, qui est un peu un modèle par rapport à tout ça. Et il y a beaucoup de producteurs sur l'Aïole qui étaient en système maïs et tout ça. Aujourd'hui, bon, ben, vous avez, ils ont décidé par décret d'arrêter par exemple l'ensilage de maïs, mais pas parce que c'est une production qui est synonyme d'intensification et tout ça, mais parce que ça posait des problèmes sérieux de fabrication du laïole. Donc quand vous transformez derrière, vous adaptez vos pratiques à ce qui permet de faire un fromage de qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez sur la Haute-Savoie, quasiment tous les fromages sont faits au foin et à l'herbe. Et on a des produits qui sont exceptionnels, quoi. Donc il y a des choses qui s'éliminent de par le fait qu'on transforme.
Ce que tu dis pour la gueule n'est pas forcément une gueule mentale, et c'est aussi de dire que la gueule, ça n'existait pas dans les années 50, ça a été créé dans toutes les pièces par des gens qui ont recréé au fromage. Mais c'est parce qu'ils ont donné une image forte à ce fromage et qu'il est vendu à un certain prix assez élevé, qu'on peut avoir un système de production qui fait bien les producteurs, quoi. Et sinon, ils étaient obligés quasiment de rester dans le système. C'est parce qu'il y a une filière de vente. Et la gueule, je ne sais pas combien est le prix du kilo, mais bon, la gueule, c'est combien le kilo dans les vins, quoi. Voilà, c'est pas un fromage peu cher, quoi. Donc ben voilà, ça a un prix, quoi.
Juste, il y avait peut-être quelque chose comme information parallèle à apporter. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'équilibre
dans les productions vis-à-vis de ceux qui vous achetez les produits, et est-ce qu'au marché paysan, au panier paysan, vous avez ce genre de problème ou est-ce que vous les avez résolus?
Moi, j'étais au panier paysan, mais j'ai...
Ah bon.
Il y a Laurence,
mais la pantalon de la question.
Laurence.
Elle se cache.
Une question.
On pose la question.
Le panier,
il peut répondre.
C'est pas
le micro.
Oui, je disais tout à l'heure, ils ont parlé d'un problème d'équilibre entre l'offre et la demande, on pourrait dire, qui est surtout difficile pour les maraîchers. Mais justement, vous avez une certaine antériorité historique, donc un peu plus d'expérience. Et est-ce que vous avez trouvé ce problème-là aussi, vous l'avez rencontré, d'arriver à un équilibre? Et comment vous avez fait si ça vous était arrivé?
Jean, micro, vous avez la réponse.
Le panier paysan, ça fait 9 ans qu'on a ouvert le panier paysan. On a commencé avec 13 producteurs. 13 producteurs associés. Nous sommes maintenant 17 producteurs associés, dont 4 producteurs de légumes. Il a fallu 4 producteurs de légumes. Ben seulement maintenant qu'on arrive à avoir un équilibre au niveau des légumes, où on est approvisionné régulièrement. Et là, oui, là, maintenant, on arrive à fournir et tout.
Dans le sens du monsieur, là, il y a une info, monsieur qui a parlé là sur l'azote, là, les cours à l'école d'agriculture. Il y a un scientifique que je trouve du tonnerre, mais je ne suis pas moi une référence dans le domaine, c'est monsieur Bourguignon. Si vous tapez Bourguignon sur internet, vous tombez d'abord sur les recettes culinaires et après sur Claude Bourguignon. Je vous invite à écouter ce monsieur parce qu'il est absolument fantastique sur, l'état, voilà, sur l'état de la terre, comment on peut détruire une terre.
Madame
et Monsieur Bourguignon, c'est intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure du film Demain. Il y a aussi le bouquin qui est fantastique. J'ai aucun pourcentage sur la vente de ce bouquin-là. Mais si vous aimez la lecture, plongez-vous-y dedans parce qu'il y a des descriptions qui sont ressemblantes à ce que nous avons entendu par des locomotivés ailleurs dans le monde. Où on se demande d'ailleurs pourquoi l'info n'est pas venue plus tôt, parce qu'il y a plein de gens qui essayent d'avoir une production et une vente locale. Voilà. Donc c'est, comme bouquin, c'est super.
Dans le film de bain que vous évoquez, il y a un agriculteur qui fait une expérimentation dans le nord de la France, j'ai plus son nom, un peu comme M. Bourguignon, et il a choisi de faire 1000 mètres carrés d'expérimentation, alors que les terres à côté c'était des sols appauvris. Il a pris une certaine surface dans ses sols complètement appauvris. Il a fait une sorte d'oasis depuis 6 ans. Et là, cette année, il disait, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il produit, mais il a mélangé plein de cultures, des raisins, etc. Et sur 1000 mètres carrés, bon, les maraîchers, là, ça, c'est hallucinant, sur 1000 mètres carrés, il sort 32 000 euros.
Oui, c'est ça.
Donc imaginez, permaculture, etc. Donc c'est un niveau technique énorme, mais par contre, il est parti d'un sol qui était quasiment mort. Et donc, il me tarde de vous justement lire le livre ou d'en savoir plus. Alors, je ne suis pas du tout agriculteur, donc je ne serai pas jugé de la pertinence. Mais c'est vrai que quand on voit dans le film de son maraîchage, c'est vraiment le côté oasis, c'est-à-dire que le raisin se prend à faire de l'ombre à certains légumes, enfin voilà, il y a vraiment une interaction. Moi c'est fruitier, ça a l'air d'être le bordel, mais quand vous rentrez, vous voyez une vie. Et donc cette personne travaille avec l'INRA, et elle dit cette année, j'ai fait des expérimentations, je crois, il était jusqu'à 50 000 euros sur 1 mètre carré. Alors qu'un maraîcher en Aveyron, pour faire 30 000 euros, il a besoin d'un hectare. Donc, alors, c'est peut-être qu'il fait des productions très chères. Comme on disait, s'il fait du safran, c'est facile. Donc, ça n'est pas les productions qu'il fait, il faut étudier un peu la solution, mais voilà.
Non. Juste pour poser ma question, une petite histoire, pour qu'on puisse parler dans le micro, là. Je viens de faire 20 km en voiture. À quand l'installation d'un épicier syrien ouvert de nuit à Ville-Comtal. ma question, c'est pour dire...
Chinois.
Ma question, c'est pour demander... Aujourd'hui, on parle de l'échange entre certaines personnes de certains produits. Je pense qu'on oublie une grande partie de la population. Je pense notamment... Alors, j'ai prononcé le mot syrien, mais c'est peut-être pas eux, qui habitent dans des... eux, en tant que syriens, mais il y a d'autres personnes, qui habitent dans des grandes villes et qui ne vont pas au panier paysan, qui ne vont pas au locomotivé, qui ne vont pas au marché, et qui vont chez Leclerc, chez Lidl, chez Leader Price. On les connaît plus ou moins, mais j'ai peur, mais peut-être que d'autres formes que les locomotivés, ou les locomotivés eux-mêmes, et peut-être sous d'autres formes, pourraient intervenir vers les populations qui sont pas forcément défavorisées. Ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de se nourrir d'une manière correcte et avec, comme le disait le monsieur, avec un échange humain plus important que la vendeuse, ou contre qui je n'ai rien d'ailleurs, la vendeuse ou la personne qui met en rayon dans ces grandes surfaces. Tu as dit tout à l'heure qu'on n'avait pas à s'opposer aux grandes surfaces, peut-être pas. Mais on peut penser que les autorisations d'ouvrir des grandes surfaces par les mairies ne coïncident pas forcément avec la reprise de terres agricoles par ces mêmes mairies, ou l'ouverture de terres arables qui pourraient servir à faire du maraîchage ou à faire des productions en local. Et donc, une partie de la population française est un petit peu oubliée, pas par les locomotivés eux-mêmes, mais par la manière dont on pense nos échanges qui nous font du bien à nous personnellement. Mais je suis dans ceux aussi qui font pas forcément du bien à l'épicier syrien de Ville-Comtal qui va s'installer prochainement.
Juste une réponse très concrète, mais on n'est pas sûr, mais ça fait 12 ans qu'on aimerait bien travailler avec les épiciers des zones rurales qui ont été menacés il y a un an ou deux, puisque le principal distributeur passé dans les épiceries, il a dit qu'il passerait plus dans certains villages. Donc, comment se démerder entre nous pour faire un épicerie. Comment fournir les épiceries locales et après. Et après, des fois c'est un peu dur, mais. Moi je pensais par exemple qu'un des aspects de croissance des locomotivés, c'était de faire du plat cuisiné parce que de plus en plus de gens ne savent pas ou ne veulent plus cuisiner. Quoi. Donc en fait, des habitudes de consommation, le supermarché on peut faire toutes ses courses en même temps. Il y a un côté pratique, qu'on l'avait ou non, je suis pas. Voilà. Et ce côté pratique, est-ce que nous on peut se débrouiller pour le recréer avec notre épicier local, etc. À un moment donné, on peut s'opposer au supermarché, je suis d'accord avec l'histoire de prendre possession de terre, voilà. Je suis pas là pour faire le militantisme, mais ça m'énerve autant que plein de gens. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on propose d'efficace en face? Parce que s'il n'y a rien en face, en fait, on ne peut pas... Comment ça se fait qu'à Rodez, j'ai entendu dire que le McDonald's avait été la surface alimentaire de McDo la plus rentable en France? Comment ça se fait qu'au mètre carré, c'était la surface McDo? Moi, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu de fast-food local à Rodez. Je suis juste étonné de ça. Non, mais personne de sérieux en France. Sérieux, c'est pas ce que je veux dire. C'est, vous avez le McDo, il fait tout, puis il y a le burger qui s'est créé, mais combien de temps après? Et je dis pas que... Peut-être que c'est pas bien le fast-food, mais au bout d'un moment, en force de... Voilà, aujourd'hui, 50% de la restauration en France est devenue rapide. Ben, on peut mettre un bon steak et au locomotivé, on a fait des pain burgers, ça marche plus ou moins. Les gens font leurs burgers à la maison. Voilà.
On vend des pain burgers.
Des pain burgers 100% bio, 100% locaux, quoi. Avec du blé local.
Et du ketchup aussi, bio.
Avec du ketchup, voilà, mais à un moment donné.
Moi, je fais ça avec un steak frontal dedans.
Voilà, on peut. Il y a plein d'innovations dans le monde de gens qui réinventent la nourriture. Et des fois, on est un peu dogmatique dans ça. Et voilà, moi je trouve que deux McDo Rodez qui marchent du feu de Dieu, je comprends pas qu'il y ait personne en face qui ait créé quelque chose de. En restauration permanente et rapide, à Rodez, vous avez deux McDo et le bowling, quoi. Heureusement, il y a quand même quelqu'un qui fait des produits locaux, entre guillemets, mais voilà, quoi. Non, mais après, c'est la réalité de l'alimentation à toutes les heures. C'est qui nourrit avec un service professionnel à toutes les heures? Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis que simplement, c'est le constat, quoi. Donc est-ce que les producteurs locaux s'organisent? C'était aussi une des pistes de la maison commune, par exemple. Voilà, en fait, voilà, c'est des choses qui...
Et pour ça, qui cuisinez éventuellement, que vous feriez, dans quel contenant?
Ça va faire des déchets.
Ça va faire des déchets.
Voilà, alors si c'est le verre, ça reste un peu recyclable. Les métaux, ça a un coût tout ça. Mais voilà, la conserve a un coût. Donc oui, c'est toujours. Et en produits frais locaux, on a des produits frais locaux locomotivés, comme des lasagnes, et c'est dans une boîte plastique.
Ou alors la personne vient avec
son emballage. On peut tout améliorer, on peut tout faire.
Et venir distribuer avec le foyer central.
Oui, parce qu'à ce propos, j'ai entendu certains industriels qui étaient attirés pour revenir vers le vrac.
Ah, complètement.
Et des grands industriels.
Oui, c'est déjà ça. Il y a des gens qui
ont... Après, c'est toute la difficulté du vrac dans le locomotivier.
Voilà, du transport, on transporte.
Du transport, c'est, il faut que le produit vienne du producteur au local, qu'il est rattrapé dans les mains d'un domaine, pour être mis dans le panier, ou enfin, voilà, pris par
pour les produits secs.
C'est vrai que mais les emballages, c'est vraiment d'art. On a un petit guide sur les emballages recyclables, les emballages que les producteurs récupèrent. Voilà, on est réussi à faire ça, mais il faut creuser la voie.
Après, c'est comme ce qu'on fait, c'est peut-être aussi un système temporaire et que la vraie solution, c'est peut-être avoir plein de points relais qui accepteraient du vrac. Aujourd'hui, si on a mis du vrac avec un rôle bénévole, je crois qu'on aurait peut-être problème à gérer. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est qu'en fait, on est toujours en invention. L'optimisation alimentaire, si on jouait à plus de pétrole, mais ce n'est pas forcément un système qu'on vous a présenté non plus. C'est une forme de. On tente de trouver une solution, mais si les gens croient que c'est la solution, ils se trompent. Quoi. Je pense qu'elle est encore au-delà de ça. Quoi. C'est ce que vous dites. Éviter le récipient, se servir au plus proche, donc il faut plein de points relais en réalité. Se servir au plus proche en bras, c'est plein de points relais, plein de lieux de distribution alimentaire.
Il y en a une maman là, qui l'a créée dans le nord de la France, là, je ne le pas, une épicerie zéro déchet. Voilà, et puis une jeune maman, alors, une femme et puis une autre jeune maman qui faisait zéro déchet chez elle, et là, il y a plein de missions, c'est pas possible. Les gens sont motivés, créent, et bravo, quoi, et les locomotives, les wagons. S'accroche.
Voilà pour par exemple, en fait, on a des très très bons barres de céréales faites avec des poulets. C'est proche. Et en fait, on m'a demandé, mais pourquoi tu le mets pas dans des sacs en papier craft, tout ça. En fait, j'ai cherché un moment, j'ai dit, mais là, j'ai des pots de gras, c'est insupportable. Quoi. Donc en fait, on teste, en fait, on cherche, il y a des fois c'est le plastique le mieux. Et c'est malheureux, mais pour certains emballages, on n'arrive pas à trouver mieux. Quoi.
D'autres questions? Bon, il y a
Bernard qui est au marché, donc le maraîcher d'Ozy, il m'avait dit, moi je ne sais pas si je vais pouvoir venir, mais j'aimerais bien dire que ça serait peut-être bien que par rapport aux élus, les producteurs aillent les trouver. Et entre autres, essayer, puisque les élus ont du foncier à leur disposition, toute mairie a une réserve foncière, ils disposent aussi, comme ils sont gestionnaires, de l'eau, parce que pour faire pousser des choses, il faut quand même de l'eau aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de créer un emploi de jardinier municipal, genre cantonnier, mais qui ne serait pas dévolu à soit nettoyer les ruisseaux, soit à retaper en mettant des patchs de goudron sur les routes, mais qui serait dévolu plutôt à cultiver ces terres-là en maraîchage, de façon à pouvoir approvisionner les cantines locales, puisque la mairie aussi, elle a la fonction de gérer ce lieu de restauration, même si elle donne un Sodexo quelconque, et même à des Sodexo locaux. Voilà, et qui ne font pas plutôt des choses bonnes dans les plats. Donc il m'a dit que ça serait quand même bien de voir ça, et éventuellement, si jamais il y avait des gens qui avaient connaissance de lieux où ça s'est fait, donc on peut faire des recherches sur Internet, on peut, bon, et puis peut-être localement, ou près du local, quelque chose qui se soit passé dans ce style. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles. Moi j'avais comme expérience, j'en ai parlé, on mangeait avant, le côté convivial aussi des jeudis en question, c'est à 7h que ça se passe ici. Simplement c'était de dire qu'il y a une commune, mais parce que je le connais là, ça peut-être existe ailleurs, qui a donné des terres en gérance, des terres du parc municipal on va dire, à une association d'insertion, qui a décidé, donc cette association, de développer du maraîchage bio. Donc, à l'heure actuelle, ça fait 5 ou 6 ans que ça dure. Ils ont eu, même de la part de la municipalité, quelques agrandissements possibles, et ils alimentent, entre autres, le marché, les marchés locaux, donc le marché de Plainvent, hein, et ils alimentent aussi des biocoops de la région, donc c'est en Bretagne, c'est le Morbihan, il y a aussi une certaine sensibilité, du pouvoir d'achat peut-être aussi, bien entendu, mais donc c'est une expérience aussi qui existe. Donc les mairies, si elles veulent aussi, mais il faut aller sûrement à leur devant et être des demandeurs. Il y avait quelqu'un qui avait levé le doigt, oui.
Non, juste pour... Tu demandais une autre ville qui a cette expérience. Dans le bouquin de Main, aux alentours de la page 50, il y a la ville de Détroit.
Oui,
oh là là, la catastrophe.
Non, je crois qu'ils ont 10% de production locale faite dans les espaces verts de la ville.
C'est incroyable.
Ils sont
rendus
verts. Non, c'est
une
ville.
C'est différent.
Si vous avez plus de questions, on ne va pas les garder plus longtemps. Ils viennent de un petit peu loin. Là. Ça fait... Ils ont dit que pour aller de chez eux, ça faisait 1h20, c'est pas ça.
Non, mais on va dormir chez Benoît, en fait.
Ah. Bien vu. Pour le petit déjeuner, bien vu. Bon, n'oubliez pas, donc en partant, vous avez là-bas le petit chapeau pour participer aux frais. C'est vrai que les frais n'étaient pas très importants.